Bonjour ou bonsoir, selon l'heure où vous nous écoutez. Ici Sens, sur Transistor, qui essaie de donner un peu de sens à l'actualité.
Le sens qui n'est pas une pièce matérielle. Et il a un sens pour l'homme, en raison des besoins de l'homme, ou en raison de la signification que, comme philosophe, sociologue, il lui attribue.
Saisir le néolibéralisme. Le titre de l'émission essaye de revenir sur un débat qui fait rage actuellement dans les sciences sociales, mais qui fait particulièrement écho à de grands nombres de débats dans l'actualité. En effet, pour certains, ce qu'on appelle néolibéralisme n'est qu'un mot dans un vocabulaire de gauchiste, une sorte de nouveau mot pour dénoncer le capitalisme et ses excès. Ce ne serait, entre autres, qu'une sorte de méga-capitalisme hyper-financiarisé, dont la logique marchande serpenterait un peu partout. Mais de nombreux chercheurs, que ce soit des philosophes, des sociologues ou des historiens, commencent à s'intéresser au néolibéralisme comme une réalité propre, comme un courant d'idées et comme quelque chose qui a eu positivement de l'impact dans notre réalité. Autant je suis, pour ma part, plutôt d'accord avec le fait que le néolibéralisme serait une nouvelle forme du capitalisme, autant je pense que ce que demande le néolibéralisme à l'individu va au-delà du capitalisme. Mais, et c'est ici la vraie question, comment peut-on saisir une nouvelle réalité? Comment peut-on trouver une idéologie au moment de son apparition? C'est quelque chose qui est particulièrement difficile parce que l'on peut reprocher aux chercheurs d'avoir chaussé sa subjectivité et des lunettes qui déformeraient la réalité. Ils verraient le néolibéralisme partout, dans tout ce qui l'indignerait. Je pense très honnêtement qu'il y a des auteurs néolibéraux qui ne doivent pas être traités seulement comme des adversaires idéologiques, mais comme des gens qui ont créé des idées. Et je pense qu'il était intéressant de comprendre ce qui les anime. Et c'est ce que font de nombreux chercheurs actuellement, que cela soit des sociologues comme Luc Boltanski, ou que cela soit des gens comme Pierre Dardot et Christian Laval, qui ont écrit un grand nombre de livres sur le néolibéralisme et son histoire intellectuelle. Je vous propose aujourd'hui d'essayer de comprendre un peu le néolibéralisme.
Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter.
I see you took a detour down the road to serfdom.
Talk about the end of laissez-faire.
Sheesh. Well, shake it off, Freddie. I'm not pulling any punches in there.
I'm ready.
John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round two.
Le néolibéralisme serait avant tout une réalité, portée une politique très favorable au marché, dont les deux principales figures seraient Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni. En France, nous aurions appliqué au fur et à mesure une politique néolibérale à partir de 1974 sous Valéry Giscard d'Estaing, et nous aurions accéléré ces réformes néolibérales sous François Mitterrand en 1983, mais surtout avec Édouard Balladur en 1986. Qu'est-ce qu'on appelle mesures néolibérales? Eh bien, ce sont des mesures qui vont à l'encontre de ce qu'on appelait le consensus keynésien. Le consensus keynésien était à la base de notre politique économique. On investissait énormément d'argent public dès qu'il y avait un problème pour essayer de ce qu'on appelle stimuler de la demande pour que les ménages puissent consommer. On essayait de réduire les inégalités pour promouvoir une sorte de classe moyenne qui ait accès à toutes les joies de la consommation. Et nous avons développé, pour essayer de maintenir le contrat social, un état-providence qui éviterait ainsi aux plus faibles d'être exclus de cette société. Le néolibéralisme naît alors au moment où l'État est abandonné au profit du marché. Il faut essayer de stabiliser le marché, il faut essayer d'ouvrir des endroits qui étaient considérés comme des monopoles d'État au marché, parce que l'on considère que le marché est plus efficace, par exemple, dans les termes de l'éducation aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans la santé en France où on a ouvert aux mutuelles, ou dans les différentes lignes de transport, comme nous avons pu le voir durant il y a 2 ans, avec l'ouverture à la concurrence de la SNCF. L'État est vu par les néolibéraux comme une sorte de grosse machine beaucoup trop lourde et pas assez efficace, aurait prouvé son inefficacité au moment de l'immense crise de 1974, qui aurait vu l'incapacité des États à régler eux-mêmes cette crise en faisant ce qu'on appelle tourner la planche à billets, c'est-à-dire que l'on crée nous-mêmes de l'argent par des banques centrales pour essayer de les distribuer sur le marché. Le seul problème, c'est qu'avec ceci, les prix montent, la valeur de l'argent diminue, et ainsi, il y a moins de possibilités de profit pour les entreprises, qui vont alors cesser d'investir, et on a ce qu'on appelle une crise de confiance. Les néolibéraux disent que si on donne des pouvoirs à tous les acteurs de marché et qu'on laisse le marché jouer pour que chacun puisse innover ou que chaque client puisse trouver une offre qui lui est convenable, eh bien le système serait bien plus efficace et bien plus respectueux de la liberté de chacun. L'État est vu en effet comme une machine à produire de l'arbitraire qui peut être contrôlée par des puissances privées, que cela soit au profit des plus pauvres, au profit de tels partis politiques, mais aussi, et c'est très fort dans l'imaginaire de beaucoup de néolibéraux, au profit d'autres grandes entreprises. Le but, c'est ainsi que le pouvoir soit le plus équitablement réparti. L'État en lui-même est quelque chose qui monopolise le pouvoir et qui donc ne peut créer que de l'injustice dans la société. C'est pour ça que de nombreux néolibéraux sont anti-étatiques. Mais qui sont ces néolibéraux ? Parce que certes, Margaret Thatcher, Ronald Reagan ou actuellement Emmanuel Macron peuvent être vus comme des personnalités qui incarnent un programme néolibéral. Mais qui a pensé le néolibéralisme ? Ce n'est pas seulement des puissances de l'argent. Puisque de toute façon, en 1930, ces mêmes puissances de l'argent, ceux qui prônaient un laisser-faire, ont été décrédibilisés par l'immense crise. La révolution néolibérale de 1970, selon beaucoup d'auteurs et d'historiens de la pensée, n'est pas un retour aux années 30. C'est une innovation. Et les différents points de vue des auteurs travaillant sur la question comme Dardo et Laval ou Serge Audier prouvent que le néolibéralisme est en effet une avancée intellectuelle. En effet, ce qu'on va appeler les néolibéraux, dont un des plus connus s'appelle Friedrich Hayek, un économiste et philosophe, vont se regrouper dans les années 1930-1940 pour essayer de se dire pourquoi le marché a perdu ? Pourquoi le nazisme et le communisme ont-ils emporté ? Comment le marché a-t-il pu perdre alors qu'il respecte chaque liberté face au communisme ? Pourquoi le marché s'est effondré sur lui-même ? Qu'est-ce qu'il n'a pas respecté ? Qu'est-ce qui n'a pas été mieux fait ? Pour certains, très minoritaires comme von Mises, qui était le représentant d'une école d'économie ultralibérale autrichienne, le libéralisme dit manchestérien, le laisser-faire, celui qui prenait aucune intervention de l'État dans l'économie, n'était pas allé assez loin. L'État était encore présent, ce qui était un problème. On parle dans ce cas-là quasiment d'anarcho-capitalisme ou de libertarianisme. Mais beaucoup de néolibéraux, que ce soit allemands, français ou américains et anglais, considérait que non, au contraire, l'État avait quelque chose à faire. Nous retrouvons des noms qui seront ensuite de personnes qui seront des grands réformateurs dans les années 50, 60 et 70. En France, il s'appelle Jacques Rueff. En Allemagne, il s'appelle Walter Eucken. Et aux États-Unis, il s'appelle Walter Lippmann. Ces gens-là disent l'État peut intervenir. Certains, comme Walter Lippmann, pensent même qu'il peut y avoir une protection des plus faibles. Mais tous s'accordent sur une chose lorsqu'on lit les textes que décrit Serge Audier dans « Aux origines du néolibéralisme ». L'État peut définir des règles du jeu. Et ils prennent tous l'exemple du code de la route. Le but, c'est pas de contrôler ce que chacun fait avec son véhicule, là où il va. Là, ce serait du planisme, ce serait investir comme des socialistes. Non, l'État peut définir quand même que l'on roule à gauche ou à droite. Et le but, c'est qu'ainsi, chacun soit averti du fait que tout le monde roule à gauche ou à droite. Cette idée d'informer tout le monde pour que tout le monde soit également instruit et puisse participer ainsi à un système social est très présente chez beaucoup d'auteurs néolibéraux. Hayek, qui est connu surtout comme étant le pape du néolibéralisme, porte une théorie très intéressante sur l'information. En effet, il se met du point de vue de l'individu. Il ne dit pas que le marché a raison. Il dit que chaque personne est maître de ce qu'il préfère et que chaque personne sait ce qu'elle veut le mieux. Or, un État ou un marché ou en fait n'importe quelle institution ne peut pas rentrer dans notre tête. Nous sommes chacun le maître de nos pensées et de nos actions. Nous sommes pas forcément les maîtres de nos désirs, mais il n'y a que nous qui pouvons désirer ce que nous voulons. L'État ne peut pas le savoir, jamais totalement, et il ne peut ne proposer que des solutions arbitraires ou partielles. Il faut donc essayer de créer un ordre naturel, un ordre spontané, artificiellement, où chacun puisse avoir droit à toutes les informations possibles et transparentes, par exemple par un prix qui pourrait indiquer qui je suis en train de financer quand j'achète un produit, d'où ça vient, pourquoi je paye autant et pourquoi je paye moins, avec le moins d'intervention d'État possible pour pouvoir faire mon choix. Le marché permet en fait la rencontre d'individus qui savent ce qu'ils veulent et le marché n'intervient pas pour dire ben, « vous désirez mal ou vous désirez bien ». Et c'est la grande force du marché selon beaucoup de néolibéraux car beaucoup de personnes vont suivre ce que pense Hayek. Ce subjectivisme méthodologique n'est pas propre au néolibéralisme. Toute la pensée structuraliste va se fonder sur un même subjectivisme méthodologique, mais assez différent, qu'on va qualifier de temps en temps de relativisme. Ici, c'est une véritable modernité de néolibéralisme, et la centralité donnée à l'économie n'est en fait que secondaire. L'économie et le marché ne sont pas des choses bonnes en soi, c'est juste que c'est le meilleur système qui respecte les préférences de chacun et qui n'est pas arbitraire, sachant que pour beaucoup de ces personnes, l'arbitraire, c'est le nazisme ou le communisme. Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit. Tout ceci est bien sûr extrêmement biaisé. Tout ceci est bien sûr peut-être un peu exagéré, mais il est intéressant de se rendre compte que le néolibéralisme se pense comme un universalisme. Ainsi, le prix Nobel d'économie Gary Becker, ouvertement libéral, reconnaissait que le modèle qu'il avait présenté de l'Homo economicus, ces fameux calculateurs de plaisir, coût, bénéfice permanent, qui choisit toujours ce qui est bon pour lui, en tout cas rationnellement ce qui lui permet d'atteindre ce qu'il veut, eh bien cet Homo economicus, selon Gary Becker, est tout aussi universel qu'est l'homme des droits de l'homme. Puisque je peux être un Homo economicus intéressé pour des fins aliénées, c'est-à-dire que je peux être aliéné par ma propre culture, et bien malheureusement, personne ne peut m'en empêcher. Mais j'ai le droit. Je peux être aussi parfaitement libre et être ultra réflexif et repenser « mais est-ce que je préfère vraiment ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas des publicités qui me l'ont fait ?» Bah peut-être. Mais le marché, en tout cas, nous permet de réaliser ce calcul le plus librement possible. Tandis que l'État, par exemple, s'il instaurait un système d'école publique à tous, nous imposerait les mêmes informations, nous permettrait pas forcément d'avoir les mêmes préférences. Et bien sûr, lorsque l'on donne un certain nombre de participants pour telle ou telle filière, et qu'on ouvre une éducation ouverte à tous, en fermant certaines choses, en nous disant non, ce n'est pas productif, donc résultat, on ne va pas financer, par exemple, des écoles de commerce, eh bien l'État empêche des gens dont la préférence aurait pu être d'aller choisir une école de commerce. C'est une privation d'une liberté fondamentale pour ces néolibéraux qui est le fait de pouvoir choisir ce que l'on veut. Certes, il est très drôle de se moquer de Macron lorsqu'il dit que le plus important, c'est sans doute la liberté. Eh bien, il faut se rendre compte que pour les penseurs néolibéraux comme Hayek, Gary Becker, Milton Friedman ou les ordo-libéraux allemands, la liberté est quelque chose d'essentiel. Alors oui, peut-être que c'est parce que ce sont des bourgeois. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la sociologie, des participants, des colloques néolibéraux. Peut-être qu'ils sont tous riches, peut-être qu'ils ont plus souvent accès à la liberté que d'autres. Mais il est très intéressant de se dire qu'ils portent le débat au-delà du fait que la liberté, c'est bien. Il y a une vraie force à leur proposition qui va contre toute une logique d'État qui était très forte dans les années 40-70. L'État fordiste était pensé comme uniformisant. Et sachant que cet État fordiste est rentré en crise en 1974 en ne pouvant pas encaisser le choc pétrolier et avec des problèmes de redistribution des richesses. Le néolibéralisme, en tant qu'idée, en tant que corpus qui avait été réfléchi très ouvertement par des gens comme Hayek, par des chefs d'entreprise, par des juristes, par des élites comme Jacques Rueff qui ont travaillé pour le général de Gaulle. Le néolibéralisme a eu une occasion historique. Le néolibéralisme existe dans le sens que ces gens-là se présentaient comme les nouveaux libéraux, comme des gens qui refondaient la pensée d'Adam Smith. Chessmen, you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cut short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another. Mais là, je vous parle de la réalité intellectuelle du néolibéralisme. Et de sa charge positive dans tous les sens du terme, dans le sens que des textes sur le néolibéralisme ont véritablement existé, et que ce n'est pas simplement une négation de l'État. C'est une promotion d'un certain type d'individu. Et il faut se rendre compte que les politiques qui ont été menées selon ces intérêts, parce que certes, cela sert aussi les intérêts des plus riches, et c'est pour ça qu'ils les ont soutenus, mais ça peut aussi servir des intérêts, tout en croyant au mythe d'un individu véritablement libéré, dans le fait qu'on ait la sensation de vraiment attraper des responsabilités. Eh bien, cet idéal a été porté par des hommes politiques qui soient cyniques ou tout à fait convaincus du bien fondé de ces idées. Et c'est bien pour ça qu'ils sont dangereux. Cette politique a eu des conséquences. Le changement de logique dans les entreprises a des conséquences et des réalités. À l'ouvrier fordiste, celui qu'on attendait d'être loyal, qu'il paie bien ses impôts, qu'il participe à un grand système social et qu'il construise pour tout la prospérité physique de toute la société, a succédé une nouvelle idée. Un individu plus libre, un individu qui s'amuse à son travail, un individu qui rencontre enfin des gens, qui ne soit pas sur une chaîne de production. Robert Castel, dans son livre « Les métamorphoses de la question sociale », explique que lorsque la société entière s'est fondée sur le système salarial, qui était avant tout un système ouvrier, c'était les ouvriers, avant tout la majorité des salariés durant les années 20 et 30, lorsque la société entière devient une société salariale, l'idéal salarial n'est plus un idéal d'ouvrier, mais un idéal de cadre. Et alors, la mentalité des cadres est une mentalité qui se veut libérée et qui veut trouver un sens dans son travail, comme le prouve tous les nouveaux écrits manageriaux des années 90.
Ainsi, par exemple, les qualités qui, dans ce nouvel esprit, sont des gages de réussite, l'autonomie, la spontanéité, la mobilité, la capacité rhizomatique, la pluricompétence, par opposition à la spécialisation étroite de l'ancienne division du travail, la convivialité, l'ouverture aux autres et aux nouveautés, la disponibilité, la créativité, l'intuition visionnaire, la sensibilité aux différences, l'écoute par rapport au vécu et l'accueil des expériences multiples, l'attrait pour l'informel et la recherche de contacts interpersonnels sont directement empruntés au répertoire de mai 68. Plus généralement, en mettant l'accent sur la polyvalence, la flexibilité de l'emploi, l'aptitude à apprendre et à s'adapter à de nouvelles fonctions plutôt que sur la possession d'un métier et sur les qualifications acquises, mais aussi sur les capacités d'engagement, de communication, sur les qualités relationnelles, le néo-management se tourne vers ce que l'on appelle le plus souvent le savoir-être, par opposition au savoir et au savoir-faire. Dans un monde connexionniste, la distinction de la vie privée et de la vie professionnelle tend à s'effacer sous l'effet d'une double confusion. D'une part, entre les qualités de la personne et les propriétés de sa force de travail, indissociablement mêlées dans la notion de compétence. D'autre part, entre la possession personnelle et, au premier chef, la possession de soi et la propriété sociale déposée dans l'organisation. Il devient dès lors difficile de faire la distinction entre le temps de la vie privée et le temps de la vie professionnelle, entre les dîners avec des copains et le repas d'affaires, entre les liens affectifs et les relations utiles, etc.
La description que fait Luc Boltanski dans ce livre Le digne nouvel esprit du capitalisme est celui d'un manager idéal. Il est celui du salarié idéal dans la société, dans la Startup Nation, on pourrait même dire. Cette idée vient du fait que l'on trouve sa réalisation dans le travail. On peut reprendre ici les travaux de Frédéric Lordon sur dans Capitalisme, désir et servitude, qui explique que le régime actuel de travail est fait de telle façon que les ouvriers ne trouvent que les ouvriers ou que n'importe quel travailleur, qu'il soit cadre ou ouvrier, en fait, trouve sa satisfaction non dans la consommation permise par le travail, par exemple, je suis pas spécialement heureux de mon travail, mais ça me permet d'acheter la télévision qui me permet de voir les films que j'aime, mais c'est essayer de trouver un sens et un bonheur dans le travail lui-même. Bien sûr, c'est quelque chose qui sert autant à pacifier le corps social, qui s'est révolté plusieurs fois contre le capitalisme, et surtout en mai 68, mais cela sert aussi pour certains à trouver un sens et un épanouissement au sein de quelque chose qui ne fait pas toujours sens. Quel est le sens d'être un directeur des relations humaines lorsqu'on est 40, directeur des relations humaines, et qu'on s'occupe surtout de la paperasse? Cette volonté de s'investir dans le travail est très liée au fait de cette prise de responsabilité par chaque individu dont je parlais auparavant. Puisque l'État risque d'être arbitraire en proposant un idéal de vie qui peut être fondé sur la République, qui peut être fondé sur le bien-être matériel, sur tout le monde que tout le monde soit heureux, il définit un certain niveau ou une certaine norme de bonheur. Eh bien ici, l'État ne doit plus intervenir. Chacun doit pouvoir chercher son bonheur. C'est quelque chose qui est extrêmement profond dans toute la théorie néolibérale et qui surtout se retrouve en économie. Il y a, selon Serge Audier, deux vagues de libéralisme, ce qui est très discuté. Le premier néolibéralisme serait celui dont je vous ai parlé, celui du colloque Lippmann des années 30 aux années 70, qui s'est occupé à créer une sorte de programme, à refonder un libéralisme. Puis il y aurait la deuxième vague de néolibéralisme qui viendrait avec Milton Friedman et les économistes, et la surpuissance de la pensée économique dans les logiques de justification de politique. On privatise parce que c'est la modernisation, tout ça, tout ça. Gary Becker, dont je vous ai parlé, fait partie de cette deuxième vague. Il est économiste à Chicago, et en fait, il est principalement connu pour avoir pensé la notion de capital humain. Le capital humain, ce serait des compétences qui seraient liées à chaque personne, et dans lesquelles on pourrait investir du temps, de l'argent, de l'éducation. Et ce capital humain nous permet en fait d'atteindre ce que chacun puisse espérer pour lui-même, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'utilité espérée, c'est-à-dire aussi bien de la reconnaissance sociale, un meilleur salaire, ou même tout simplement des choses complètement aliénées, ou acheter une belle voiture et la tuner, j'en sais rien. Le modèle du capital humain que crée Becker est ce qu'on appelle aussi le modèle de l'homo economicus. L'homo economicus n'est pas seulement un calculateur de coûts-bénéfices. Il est quelqu'un qui peut investir de son temps, qui peut investir de ses ressources, qui peut choisir entre différentes options et qui peut maximiser même dans les choses les plus bêtes et méchantes. Par exemple, se marier, pour Gary Becker, est un choix rationnel économiquement. Et il arrive à le former scientifiquement d'une manière très solide et très intéressante, même si c'est abominable. Cette idée d'un agent parfaitement rationnel, ou en tout cas rationnel dans ses choix pour lui-même, a beaucoup de conséquences. Puisque c'est comme ça que la logique économique rentre dans chacune de nos actions. Ce n'est plus seulement la SNCF ou la santé qui deviennent un lieu du marché, c'est la vie entière. Pierre Dardot et Christian Laval dans « La nouvelle raison du monde, essai de la société néolibérale » l'expliquent très bien. Il s'agit de gouverner les individus grâce au ressort de l'intérêt personnel, en les faisant entrer subjectivement dans une logique comptable qui met en rapport les objectifs quantifiables qu'ils parviennent à atteindre et les sanctions qui leur sont distribuées. Cela consiste à mettre en place un dispositif par lequel l'individu se verra contraint de se surveiller constamment lui-même, de s'auto-contrôler, et mieux encore, de se sentir obligé de dépasser sans cesse les résultats calculables pour ne pas subir les sanctions liées au manque d'efficacité, et pour bénéficier au contraire des récompenses attribuées à la performance. Le facteur de compétitivité le plus important est aujourd'hui le capital humain. La formation de l'individu, son développement personnel, dans et hors l'entreprise, sa subjectivité au travail comme dans la vie privée, doivent être également remodelés selon le principe de concurrence. La réalité que décrivent Christian Laval et Pierre Dardot est l'application en fait de l'homo economicus dans notre vie de tous les jours. Comme le souhaitent de nombreux libéraux, comme je l'ai décrit avec Hayek, c'est une transparence qui est souhaitée. Une transparence pour que chacun puisse juger de ses décisions et puisse prendre la bonne. La bonne pour lui, certes. Mais alors, et c'est là où il y a quelque chose de fondamentalement anthropologique propre au néolibéralisme, comment savoir que j'ai agi rationnellement ? Lorsque l'on voit dans la vie de tous les jours, au moment d'un entretien d'embauche, au moment de remplir un CV, au moment où on parle avec d'autres gens, de la façon dont ce qui est dit en permanence sur les radios, sur la télé, sur certaines chaînes. En fait, tout est transformable en capital humain. Tout est utile pour atteindre ce qu'on pourrait appeler une utilité espérée. Et si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, c'est que vous n'avez pas atteint votre utilité. C'est le bonheur et le stress qui sont alors des indicateurs de si vous réussissez ou non. C'est une surveillance, comme dit Christian Laval et Pierre Dardot, surveillance sur soi-même. En fait, l'humain néolibéral, c'est le manager de soi-même, l'entrepreneur de soi-même, son propre policier, son propre inspecteur du travail. C'est celui qui va se dire « Est-ce que j'ai pris la bonne décision pour mon avenir ?» Certes, c'est un renvoi permanent à soi. C'est un renvoi qu'on pourrait qualifier véritablement d'individualiste. Mais dedans, on peut comprendre aussi le choix, par exemple, d'aller avec des individus qui nous ressemblent ou qu'on aime. C'est choisir ses propres relations et ne pas être contraint par exemple par ce qu'on pourrait appeler les sociabilités primaires propres à notre classe, propres à notre culture. Il y a une volonté du néolibéralisme de briser tous les autres systèmes sociaux. Cette volonté de briser l'arbitraire du reste, de nier le reste du monde social. Or, la seule institution sociale capable d'organiser alors la rencontre des individus sur le marché général de la vie et qui semble le moins arbitraire parce qu'il permet à chacun de s'évaluer soi-même, c'est le marché. C'est pour ça que l'économie est au centre du processus néolibéral. Alors certes, ce marché, cette économie, c'est véritablement une économie capitaliste qui repose sur la propriété privée, qui repose sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais cette économie est utilisée comme un moyen pour un projet politique qui respecterait la liberté de chacun. Et c'est en ça que le néolibéralisme existe réellement. Que ça soit alors par la souffrance au travail, par le langage du manager, par ce que proposent les néolibéraux actuels et par la place donnée à l'économie comme système le moins pire et non la démocratie, on reconnaît le néolibéralisme. Le néolibéralisme est là. On ne peut pas alors le critiquer seulement comme un nouveau stade de l'économie capitaliste. Il faut aussi le critiquer comme pouvoir politique, ce qui fait partie aussi du travail des chercheurs en sciences sociales. J'aimerais remercier pour cette émission à Martin pour la lecture et encore à Transistor pour le matériel. Cette émission a été très très difficile à réaliser pour moi parce que le sujet me tient particulièrement à cœur et je voulais correctement l'introduire. J'espère pouvoir faire une autre émission sur le sujet, mais le sujet est dense et si je dois vous recommander bien sûr des livres, ce sont ceux que j'ai mentionnés. Alors peut-être que La Nouvelle Raison du Monde ou Le Nouvel Esprit du Capitalisme sont des livres plutôt compliqués, mais je recommande alors d'autres livres de Dardot et Laval, ou des conférences qui sont particulièrement claires et qui arrivent à synthétiser tout un renouvellement de la pensée française sur le néolibéralisme. On peut aussi penser à Serge Audier, qui a un peu dérivé mais qui lui a étudié très précisément les débats au sein du colloque Lippmann en 1936. Je vous souhaite sinon une excellente journée et j'espère avoir donné un peu de sens à tout ça.